papier, j'ai mis que je souhaitais être euthanasié le jour où je ne reconnaîtrai plus mes enfants. Ce qui pour moi est un critère de valeur, de mes valeurs de vie.
Je considère que je n'ai pas choisi de venir au monde. Je voudrais au moins avoir le droit de choisir le moment où je pars. Ça me paraît le droit le plus élémentaire.
La première piqûre fait qu'elle s'endort et la deuxième piqûre fait que son cœur s'arrête. Il n'y a aucune crispation, il n'y a aucune douleur. Et donc, c'est une mort tellement sereine.
Des témoignages autour de l'euthanasie, ce sont des extraits issus d'un transversal signé Françoise Wallmack. Demain, ça fera 20 ans, le 28 mai 2002, peu de temps après, c'est même le 27 mai, non c'est le 28 mai 2002, peu de temps après les Pays-Bas, la Belgique dépénalisait l'euthanasie. Bonjour Jacqueline Hermans.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et membre de la Commission fédérale d'évaluation et de contrôle de la loi relative à l'euthanasie. Certains disaient il y a deux décennies qu'avec cette dépénalisation, on allait vers une sorte de banalisation de la vie et de la mort. Qu'observez-vous 20 ans plus tard, Jacqueline Hermans ?
Loin de là, il ne s'agit absolument pas de banalisation de la vie ou de la mort, mais surtout de pouvoir se réapproprier la mort, de pouvoir se réapproprier ces derniers moments. Et ce que je peux dire, c'est qu'on est passé de la mort solitaire, souvent dans un hôpital, loin de ses proches, façon de parler,
oui.
Mais en tout cas isolée, mort solitaire, et aujourd'hui c'est une mort solidaire, avec ses proches qui peuvent être préparés à ce départ, avec le médecin aussi, qui pose un geste qui est tout sauf banal, avec également le fait que l'on a pu préparer, construire ce moment.
Parce que c'est un long processus, il faut le rappeler ça, Jacqueline Hermans.
Oui, si l'euthanasie en elle-même, c'est quelques minutes, pas plus. En amont, ce sont des entretiens, ce sont également des possibilités qui sont offertes à la personne en disant, bien sûr, l'euthanasie est possible, dans votre cas, vous remplissez les conditions, mais n'y a-t-il pas d'autres options possibles? Et donc, cela permet parfois, effectivement, de ne pas recourir à l'euthanasie, mais de pouvoir appréhender, je dirais, d'autres traitements, par exemple, de pouvoir aller plus loin dans la vie.
Et parfois de faire marche arrière, de renoncer finalement, de changer d'avis?
Certainement. Je pense à un cas bien précis. Il s'agit d'un homme jeune qui, quand il avait 25 ans, avait demandé l'euthanasie pour raisons psychiatriques. Il a pu rencontrer des médecins qui ont entendu sa demande. Mais en revanche, ces médecins lui ont proposé des solutions alternatives. Et aujourd'hui, il est certes encore, je pense, quelque peu fragile, mais il vit et il a des projets de vie. Il a, par exemple, le projet certainement de voyager, mais peut-être de vivre en couple, d'avoir un enfant. Il se projette dans l'avenir, ce qu'il ne faisait plus il y a quelques années.
L'euthanasie, c'est un soin, le dernier soin.
L'ultime soin. Et c'est la raison pour laquelle le médecin qui accompagne le patient jusqu'à cette dernière seconde doit connaître son patient. Parce qu'il est impossible de poser ce geste, cet ultime soin, par rapport à un patient qui débarquerait dans le cabinet médical en demandant l'euthanasie.
Il y a un lien fort, il y a une relation qui se construit.
Une relation se construit. Et ce n'est que quand, au bout des entretiens, le patient et le médecin arrivent à la conclusion qu'il s'agit de la seule option raisonnable que l'on fixe alors le jour de l'euthanasie.
Combien de personnes ont eu recours à ce jour à l'euthanasie en Belgique en deux décennies?
Plus de 27 000 personnes. C'est un chiffre, mais au-delà de ce chiffre, il y a aussi les proches qui ont pu accompagner la personne. Il y a les équipes médicales. Très souvent, lorsque une euthanasie a été réalisée dans une maison de repos ou à un hôpital, des infirmiers, des infirmières qui étaient éventuellement réticentes par rapport à ce choix de fin de vie, ayant vu que tout cela se passe d'une manière très sereine, n'ont plus cette appréhension pour la prochaine demande d'euthanasie.
Une récente dépêche de l'agence France Presse indique qu'en Belgique, l'euthanasie ne fait plus débat. Il est écrit ceci, une manifestation d'opposants à Bruxelles fin avril n'a rassemblé que 350 personnes. Vous l'avez constaté, je vous vois sourire, cet affaiblissement de mouvement d'opposition à l'euthanasie au fil du temps, Jacqueline Hermans.
Certainement, parce que j'ai pu constater le travail qui a été fait aussi par rapport à des médecins, des équipes, notamment des équipes de soins palliatifs, qui au départ étaient éventuellement opposés à l'euthanasie et qui aujourd'hui acceptent d'entendre ces demandes. Les oppositions, ben, ma foi, elles existeront toujours et il faut bien souligner qu'il s'agit d'un choix personnel et qu'il est nullement question d'imposer une demande d'euthanasie, que ce soit par rapport au patient ou que ce soit par rapport à un médecin.
On dit souvent que la législation belge sur l'euthanasie, elle est relativement souple. Est-ce que c'est vrai, un? Et deux, si c'est le cas, que permet cette souplesse, Jacqueline Hermans?
Notre législation, ou la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, est effectivement souple. Mais la souplesse a une conséquence. La responsabilité des acteurs, la responsabilité du médecin. Car il devra effectivement se positionner par rapport à une demande d'euthanasie, il devra s'enquérir de la situation médicale, du patient, des possibilités de traitement, etc. Ce n'est pas rien que cette responsabilité. Si on avait cadenassé cette loi en disant voilà, dans telle et telle condition, espérance de vie par exemple 6 mois, etc., il y aurait eu moins de responsabilité dans le chef de tous les acteurs d'une procédure d'euthanasie.
On se souvient qu'en 2014, la loi avait été modifiée pour ouvrir l'euthanasie aux enfants et aux adolescents. Est-ce qu'elle a encore amené à évoluer selon vous? Et si oui, de quelle manière, en quel sens, pour aller vers quoi?
Je ne parlerai plus de la question des mineurs, puisque celle-ci a fait l'objet d'une solution en 2014. Oui. Il y a encore un point qui nous pose réellement problème. Et cela depuis, je dirais, que l'on a voté cette loi. C'est la déclaration anticipée. Beaucoup de personnes pensent que, pas de problème, j'ai rempli ma déclaration anticipée. Donc, quand je ne serai plus en état de confirmer ma demande, on pratiquera l'euthanasie. C'est hélas faux dans beaucoup de cas. La personne doit se trouver dans une situation médicale, évidemment sans issue, avec une infection grave et incurable. Elle doit être inconsciente et la situation doit être irréversible au regard de la science, son état actuel de la science. Cela étant, on a interprété cela comme, entre guillemets, le coma irréversible. Donc ce qui veut dire qu'il y a très peu de personnes qui peuvent entrer dans cette définition. Donc, ce qu'il faudrait...
Et là, on est éloigné du premier témoignage que nous entendions il y a quelques minutes de cette personne qui nous dit « Moi, j'aimerais bien disparaître le jour où je ne reconnais plus mes enfants. »
C'est l'illustration du problème de la déclaration anticipée. La déclaration anticipée, c'est un carcan. On ne peut pas moduler les circonstances dans lesquelles on estimerait que l'on pourrait obtenir l'euthanasie. Et donc, ce que l'on souhaiterait, et la chose est possible par exemple aux Pays-Bas, c'est qu'on fasse voler en éclats ce carcan et que la personne puisse moduler avec l'aide, par exemple, d'un professionnel de la santé, les circonstances, le contexte dans lesquels elle souhaiterait que l'euthanasie soit pratiquée.
Merci Jacqueline Hermans d'avoir été en direct avec nous.